Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui je reçois Maurice Zitniki, bonjour Maurice.
Bonjour.
Qui va nous parler et nous présenter son premier roman qui s'intitule Le piège du sang de serpe et édité aux nouvelles éditions Loubatière. Les nouvelles éditions Loubatière qui sont basées à Portet-sur-Garonne. J'avais reçu d'ailleurs le responsable il y a quelques mois, Maxence Fabiani. Voilà, donc on en parle dans quelques instants avec Maurice, mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Alors déjà, un grand bravo aux éditions des Requins Marteaux, basées à Albi, qui viennent d'obtenir le prix Fauve du meilleur album 2008 pour Pinocchio de Winschluss. Alors, vous le savez, c'était le festival de la BD à Angoulême du 29 janvier au 1er février. Et voilà, un grand bravo à ces éditions de notre région et qui, j'espère, peut-être sera un de mes invités prochainement à Page pour nous parler justement de ce fameux album Pinocchio qui a obtenu ce prix. Et ensuite, deuxième petite info et dernière, et oui, je n'en ai pas beaucoup cette fois-ci, la presse à réaction à Rabastens vous propose un apéro lecture pour demain, vendredi 6 février à 19h. Alors c'est au bar des sports à Rabastens, donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas. Et même si vous êtes à Toulouse, ce n'est pas très loin, Rabastens, ça peut être sympa. Alors avec qui l'auteur, c'est Laurent Frontaire. Alors le principe de cet apéro lecture, eh bien chacun peut amener un texte de son choix, de lui ou de son auteur préféré, et le lire aux autres. Et alors chaque soirée, il y a un auteur d'invité, de romans, de nouvelles, de poésie, et qui vient lire quelques extraits de ses textes. Et à la fin de l'apéro lecture, bien sûr, si vous souhaitez acheter le livre de l'auteur, il vous le dédicace, bien évidemment. Alors donc c'est demain, vendredi, 19h, au bar des sports de Rabastens. Donc l'auteur, c'est Laurent Frontaire, qui viendra nous présenter son roman « Voyage à dos de Mérou », qui est paru aux éditions Bretzel. Alors l'histoire, c'est Givers et Cuvelier découvrent sur une plage des Landes un Mérou géant abandonné. Chose étonnante, le Mérou parle. Alors, les deux protagonistes décident alors de voyager sur le dos de l'animal à la recherche d'une hypothétique éclipse. Alors, c'est un véritable clin d'œil à l'univers de Jules Verne et à son éditeur Pierre-Jules Hetzel. Et Laurent Frontaire nous offre ici un roman dans la tradition du roman d'aventure scientifique et fantastique du 19e siècle, par l'histoire elle-même, mais aussi par la mise en page du livre, agrémenté de gravures, de lettrines et de frontispices réalisés par l'auteur lui-même. Donc voilà, je vous invite à cet apéro lecture demain 19h à Rabastens.
Page à page, Claire Ambille.
Alors je me tourne vers mon invité maintenant, donc ce premier roman, Maurice Zitniki, Le piège du sang de serpe, édité comme je l'ai dit aux nouvelles éditions Loubatière, donc en 2008, c'est un roman noir, on va en parler dans un instant, c'est un polar, hein, ce qu'on appelle un roman policier, un polar.
Et oui, oui,
voilà. On va parler de vous d'abord un petit peu, Maurice.
Eh bien, allons-y.
Alors on présente un peu l'auteur, alors vous êtes né à Paris entre Belleville et Ménilmontant.
Ben oui, 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 c'était des quartiers, oui, c'était, vu de Toulouse, Paris est une unité, c'est une seule ville, et quand on y est né, à cette époque-là, en tous les cas, les quartiers étaient très très marqués, un peu comme, comment dire, ici, Ampalo n'est pas la côte pavée, ou, etc., donc les quartiers étaient extrêmement marqués, et habiter là, c'était pas habiter ailleurs dans Paris, quoi, il y avait
une barrière,
des emplacements très 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 forts, très 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 forts, oui.
Donc vous avez passé toute votre jeunesse à Paris.
Oui, 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 absolument, oui, oui, à Paris.
Donc vous êtes Toulousain d'adoption, donc de notre ville rose depuis une vingtaine d'années, hein, à peu près.
Oui, c'est ça. Oui.
Voilà. Alors vous avez fait des études de mathématiques, Maurice.
Et oui, oui, oui.
Voilà,
c'est...
les mathématiques, les chiffres, les sciences. Hein,
oui,
peu,
les chiffres sont une partie des mathématiques.
Oui.
Les mathématiques s'intéressent à des objets beaucoup plus, beaucoup plus divers, peut-être plus subtils, encore que les chiffres soient assez subtils. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de notions d'espace aussi en mathématiques. C'est des notions mathématiques très importantes et voilà, qui prêtent peut-être, qui peuvent donner aux auditeurs plus l'idée de la rêverie que c'est que le chiffre qui paraît un petit peu froid quand même.
Oui, voilà. Oui, tout à fait. Je confirme. Enfin, moi personnellement, les chiffres, j'ai du mal. Je préfère les lettres, les écritures.
Voilà.
Les... Et justement, pendant à la fin de vos études de mathématiques, vous êtes venu séjourner un an à Toulouse, en fait. Vous avez pris un petit peu la température de Toulouse avant d'y venir pas mal d'années plus tard. Vous y installez.
Oui, en fait, avec ma femme, on est venu à Toulouse après nos études en espérant nous y installer. Donc, c'était en 1976. Et puis ça ne s'est pas passé comme ça parce que il n'y avait pas de poste. Enfin, on n'a pas pu en obtenir un. Disons, l'idée était de s'installer à Toulouse et puis après, la réalité c'est.
Alors la réalité, c'est finalement vous avez été professeur de mathématiques pendant 7 ans au Havre.
Au Havre.
C'est
ouais.
pas du tout Toulouse, effectivement.
Non, c'est pas du tout Toulouse.
C'est l'opposé.
Oui.
Donc pendant 7 ans, vous avez été professeur de mathématiques au Havre. Et là, dans ce laps de temps, vous avez publié quelques textes dans des revues de poésie. Donc vous aviez déjà un peu, l'envie un peu d'écrire.
Oui, j'écrivais, j'étais dans ces revues. Et je publiais. Ça, y avait tout un groupe, en fait. Il y avait une réflexion collective, on peut dire, si ce mot a un sens, autour d'une revue qui s'appelait Conséquences pour l'une d'entre elles, voilà.
D'accord, et donc c'était de la poésie, donc vous y étiez mis.
Parce que moi j'écrivais pour la revue elle-même, c'est la revue était beaucoup plus générale que la poésie, il n'y avait pas que des poèmes dedans, voilà.
D'accord. Et donc alors après, il y a un changement radical, vous quittez l'éducation nationale, enfin vous reprenez des études, enfin oui, voilà, vous faites refaites des études d'ingénieur en informatique industrielle.
Oui.
Et vous quittez donc forcément voilà l'éducation nationale, l'enseignement pour faire une carrière d'ingénieur informatique industrielle dans des entreprises. La première, je crois que c'était, elle s'occupait de distributeurs de billets, justement.
Oui, alors, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en informatique industrielle et génie électrique. Et comme souvent, on a un diplôme dans une spécialité, puis on fait d'autres choses dans les entreprises.
Polyvalent, quoi.
Voilà, oui, le diplôme d'ingénieur en France, il y a l'idée de la polyvalence plutôt que de la spécialisation. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais bon, c'est plutôt comme ça. Et j'ai commencé sur les distributeurs de billets qui, comme vous le savez, a une certaine importance.
Dans le livre, on en verra tout à l'heure, c'est tout à fait évoqué dans ce roman policier, les distributeurs de billets. Et donc voilà, ça vous a inspiré certains passages de...
Oui, alors bon, c'est resté modeste, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de démonter pas mal les distributeurs de billets dans ma vie, oui. C'est vrai.
Donc c'est pour ça que vous connaissez un peu les mécanismes que nous... de l'autre côté, quand on vient chercher notre argent, on ne connaît pas forcément.
Ouais, voilà, oui.
Hein, nous, on insère la carte et puis on attend que l'argent sorte. On n'est pas derrière à savoir tout ce qui se passe.
Exactement.
Finalement. Alors après, vous avez beaucoup voyagé pour une entreprise, toujours d'informatique industrielle. Vous avez beaucoup de missions à l'étranger, de longue durée, même pour certaines, 5 mois à Prague, à Copenhague, à Milan, à New York, à Francfort.
Oui, alors c'est donc j'ai rejoint Capgemini, l'entreprise dans laquelle pour laquelle
vous êtes
je
actuellement.
Voilà, qui est une entreprise d'informatique en général, qui n'est pas liée à l'informatique industrielle en particulier. Et là, ce sont des missions que j'ai eues pour beaucoup dans deux domaines métiers assez différents. L'un, c'était les télécoms. J'ai travaillé pour des opérateurs de télécoms. C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé à Milan, au Danemark, aux États-Unis. Mmh. Et un autre aspect, là, c'était pas vraiment très toulousain comme comme activité métier. Plus toulousain était ce que j'ai fait dans le spatial. Et c'était la raison pour laquelle j'étais à Francfort. En fait, c'est à côté de Francfort, à Darmstadt, où il y a le centre des opérations satellites météo.
D'accord.
Les satellites sont, sont pilotés là-bas à Darmstadt. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que j'ai été là, que j'ai été là-bas pour Météosat, Metsat exactement, le satellite étant Météosat. C'est une, j'insiste là-dessus parce que c'est un des pôles d'activité importants à Toulouse. Enfin, c'est une manière d'être de Toulouse, le spatial, à côté de l'aéronautique. J'espère qu'on en reparlera plus tard dans l'émission.
Tout voilà. À fait, tout à fait. Bah oui, parce que bon, voilà, l'aéronautique est présente là aussi, un Airbus, hein, voilà. Pour le citer, est présent dans le roman, hein, dans le piège du sang de serpe.
Oui, alors il y a le nom de la rue, c'est vrai qu'il y a l'usine Saint-Éloi. Airbus dans ce roman-là n'est pas central. Il y a plusieurs allusions à Airbus.
Ouais,
absolument.
Voilà, vous avez fait des petits clins parce qu'il faut quand même signaler que voilà, le piège du sang de serpe, c'est un roman qui se passe à Toulouse. Voilà, on avait oublié de le dire, on va le redire après en le détaillant ensemble, mais voilà, c'est un roman qui se passe dans notre ville rose, donc forcément, il y a des noms de rues qu'on peut connaître, des lieux qu'on connaît, et puis donc Airbus y apparaît également. Alors donc, comme je le disais, ces voyages vous ont donné quelque part un peu d'attente dans les salles d'attente d'aéroport et tout. Ça vous a donné vers 2006 l'idée de ce roman. Vous avez commencé à prendre des notes et puis voilà. Après, bon, ben le piège du sang de serpe a été édité aux nouvelles éditions Loubatière en 2008. Mais donc c'est un peu d'attendre les avions qui vous a donné un peu la trame de ce roman.
Oui, enfin...
L'écriture, enfin, je veux dire, l'envie d'écrire quelque chose de...
Ça m'a donné l'envie d'écrire. Au sens, ça m'a donné, comme vous le disiez, justement, ça m'a donné du temps de prendre des notes. Je travaille pas mal dans les aéroports. J'arrive à me concentrer, même pour mon métier. Je peux travailler à peu près n'importe où.
Même avec le bruit et tout.
Même avec le bruit. Mais il se trouvait que comme je voyageais vraiment beaucoup, bon ben j'avais pas systématiquement à faire, et d'observer les gens me donnait envie de décrire des situations, ça m'a donné envie, puis ça m'a donné envie de reprendre l'écriture que j'avais laissée plusieurs années auparavant, puis voilà.
Oui, parce que vous aviez aussi écrit quelques textes pour des amis peintres pour illustrer leur création.
Oui, dans le cadre d'exposition, oui.
Donc voilà, donc ce roman est un peu germé en fait dans les aéroports, là aussi.
Voilà.
On retrouve un peu l'idée de et voilà, donc la publication donc du sang de serpe en 2008. Alors on va passer justement donc à ce roman. Donc c'est votre premier roman, Maurice. Et moi j'ai beaucoup aimé parce que bon bah c'est un roman policier, moi j'aime bien. Puis alors le style, j'aime bien le style parce que c'est assez c'est prenant déjà, il y a un bon suspense. Jusqu'à la fin, et puis j'aime bien le style parce qu'il est contemporain. Enfin, je veux dire, c'est écrit, on sent que c'est de notre époque. C'est pas, ça se passe pas. Le vocabulaire, je veux dire, est adapté à notre époque. Vous avez voulu écrire quelque chose de moderne, enfin de
oui,
bien.
Oui. Oui, alors je ne sais pas si vous faites allusion là au style en général,
oui,
ou si vous faites allusion à la bande.
Un peu le style en général, et puis voilà, il y a des personnages qui parlent effectivement un langage, ma foi, certainement qui, on va dire, qui existe, hein, actuellement, chez certaines personnes.
Oui, alors, en fait, je comprends votre remarque c'est de deux façons. Il y a le style général c'est vrai, oui, j'écris en 2000, 2007, 2008, 2009, je continue à écrire. Donc c'est le langage de maintenant, il n'y a pas de passéisme à avoir en la matière. Ensuite, il y a une focalisation que j'ai faite sur un groupe de, on va dire, de tordus vraiment très très méchants qui sont là et qui eux utilisent un style, Il y a un style banlieue, on va dire, quoiqu'il n'y a pas de connotation géographique
non,
dans ce que
pas,
je dis.
Non, il n'y a pas, oui, non, effectivement, il n'y a pas.
Mais on va l'appeler comme ça pour la simplicité du propos. Et là que j'ai essayé de rendre compte, dont j'ai essayé de rendre compte, pardon, par des, un style assez inspiré des blogs qu'on trouve
Oui,
sur
voilà,
Internet,
il y a aussi voilà, cette connotation actuelle,
ça,
quoi, voilà. Alors le titre, le piège du sang de serpe. Alors ça, c'est la première question. Finalement, ce titre, ça correspond au nom d'une rue de Toulouse.
Oui, bien sûr, oui.
Dans un quartier de la Côte Pavée.
Non, la
c'est
rue
pas
de sang.
Celui...
Non,
c'est...
elle est.
Il
elle
est évoqué ce quartier dans
oui,
le.
Oui, mais elle est au Minimes.
Allez, voilà, la rue est au Minimes, oui. Mais bon, elle il y a est... aussi le quartier de la Côte Pavée qui est beaucoup
absolument,
évoqué.
Absolument, parce qu'il s'y passe
beaucoup de choses,
beaucoup de choses très sombres.
Mais
oui,
donc
oui,
c'est dans les vers les Minimes alors que cette
elle
rue
part
existe.
En fait, c'est le chemin du sang de serpe, excusez-moi.
Oui, c'est le chemin, exact.
Et il part du canal et remonte au boulevard de Suisse.
Donc c'est un chemin qui vous a... Pourquoi ce titre ? Enfin, il vous a inspiré ? Vous êtes tombé dessus par hasard ? Ou vous habitez par là-bas ? Je ne sais pas, mais
non.
Moi, j'aurais jamais pensé à un nom pareil. Hein.
Vous admettrez qu'il est très beau quand même.
Ah oui, non, voilà. C'est pas ce que je veux dire, mais je.
Moi, je le connaissais par
non, c'est très joli.
À cause de l'usine, puisqu'il y a l'usine Saint-Éloi. Après, comme ça ne se passe pas à l'usine Saint-Éloi, alors j'ai inventé une banque qui n'existe pas dans cette rue, le chemin de sang de serpe, mais que j'ai située en face de l'usine pour donner une cohérence.
Oui,
on peut imaginer une banque, tous les travailleurs qui sont en face, on pourrait imaginer une banque, c'est une agence bancaire. Après, je connaissais l'endroit, il est pas très loin de l'hôtel de police,
oui.
Donc pour moi, il y avait une cohérence avec toute mon histoire, et puis j'aime ce nom.
Non, tout à fait. Et donc, il y a une histoire, bon, bien sûr, une intrigue policière, mais il y a aussi une histoire, un peu une histoire d'amour politiquement correcte, on va dire, une petite amourette, on va dire.
Oui, une amourette, je ne veux pas tout dévoiler parce
qu'elle
n'arrive pas tout de suite. Et
Voilà, c'est les ingrédients qui composent.
À la fois un calcul et un véritable amour.
Et quand même,
un coup de foudre aussi.
Voilà,
oui.
Donc il y a l'intrigue policière, un petit zeste donc d'amourette. Et puis, les personnages, moi j'ai bien aimé parce que certains sont très attachants, d'autres sont absolument révoltants, bien sûr. Forcément, ça va avec. Et voilà, donc comme je le disais, ça se passe à Toulouse. Alors moi, j'ai bien aimé, parce qu'à un moment, vous évoquez la place de la Trinité. J'aime beaucoup cette petite place.
Ah oui ? Et
oui.
Pourquoi ? Qu'est-ce que vous lui trouvez ? Oui, moi aussi, je l'aime. Mais
oui,
pourquoi
la fontaine, je ne sais pas. J'aime bien cette petite place, là, derrière Esquirol. C'est derrière Esquirol.
Il y a un petit côté italien.
Oui, je pense. Ouais, voilà. J'aime bien cette petite place. Alors, les personnages, on va un peu les nommer. Donc, il y a Théo Cadena, qui est informaticien dans une banque, qui est apparemment un homme séduisant. Voilà. Vous le décrivez comme ça, on l'imagine, un homme séduisant qui travaille dans une banque. Après, il y a Antoine Ferrari, alors là, c'est le truand à l'ancienne, du milieu toulousain, avec Charlotte, sa fille. Et puis, il y a Kevin Duluth, alors là, et ses acolytes, alors là, ce sont des gens un peu violents, déjantés, junkies aussi, parce que ils prennent pas mal de substances illicites, on va dire. Et puis, donc, le personnage aussi important, Leïla Ilmi, qui est une jeune capitaine de police fraîchement débarquée de Paris et qui est d'origine turque et qui a un caractère assez... on sait qu'elle est jolie. Et puis, elle a un caractère, je dirais, impulsif, fier. Enfin, c'est quelqu'un de qui a du caractère, comme on dit. Et donc, ce que je vais faire pour nos auditeurs, c'est au moins lire la quatrième de couverture pour situer un peu, une fois que j'ai nommé les personnages, comme ça ils vont un petit peu voir de quoi il s'agit. Alors, une fille de truand qui veut en remontrer à son père, un truand à l'ancienne, le moins de sang possible, une bande de types vraiment dérangés, donc vraiment dangereux, quelques personnages à peu près normaux, pris au piège, une escroquerie presque invisible car transitant par les réseaux informatiques d'une banque régionale, un homme séduisant et victime de chantage, il n'en faut pas plus pour occuper les jours et les nuits d'une jeune capitaine de police déracinée. Voilà, donc en fait, les personnages sont bien situés dans la quatrième de couverture. Et voilà, donc c'est une intrigue, bien sûr, passionnante. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé. Et alors là, on va venir un peu au rapport avec votre activité professionnelle, parce qu'on y parle de blanchiment d'argent. Je ne dis pas que vous avez blanchi d'argent, ce n'est pas ce que je veux dire, mais on y parle aussi d'informatique, de distributeur de billets, enfin, d'une escroquerie, effectivement, qui peut poser la question, est-ce que ça peut arriver à l'heure actuelle, un truc pareil?
Alors, le mécanisme du blanchiment qui est décrit, enfin qui est décrit, qui est suggéré, hein, puisque ça reste très très léger comme allusion technique. Oui, c'est un mécanisme qui est assez tordu, qui a de la réalité. Je pense là qui nourrit de mon expérience professionnelle, non pas dans le blanchiment, parce que je ne suis pas spécialiste du blanchiment de l'argent,
mais en
tous les cas, c'est un mécanisme qui serait compliqué à mettre en œuvre. Mais qu'on pourrait imaginer à la portée de, c'est d'une mafia, hein, comme celle qui est derrière cette opération. Donc là, il y a quelque chose de.
C'est faisable, en fait.
Voilà,
c'est
y a quelque
le domaine
chose
du possible.
Qui est réaliste et.
Ça fait peur, hein, quand même.
Ah, ben oui, mais, quand on entend, c'est l'actualité souvent fait allusion à ces lieux de non-droit financiers, bancaires, espèce de zone où l'argent se blanchit. Je crois que tout ceci existe.
Oui, à l'heure actuelle, vous voulez dire que plus rien ne nous étonne.
Oui, je crois que tous ces mécanismes de blanchiment, enfin, tous ces mécanismes, je ne les connais pas tous, mais les mécanismes en général de blanchiment d'argent sont assez sophistiqués et, en tous les cas, assez largement déployés aujourd'hui, assez probablement. Donc là,
c'est en rapport avec peut-être l'évolution de la technologie aussi.
Exactement, oui. La technologie permet
de faire de plus en plus.
Voilà, c'est des choses de plus en plus tordues, de plus en plus difficiles à détecter, je pense aussi. Voilà.
Tout à fait. Donc justement, votre activité professionnelle vous a nourri un peu, enfin pas pour tout le roman, hein, il y a aussi la fiction, hein, mais a nourri un petit peu certains passages du livre. Donc vous pouvez un peu nous expliquer. Bon, on y parle aussi, bien sûr, d'Airbus. Vous vouliez y revenir tout à l'heure.
Oui, alors, professionnellement, là où ça m'a nourri, c'est dans l'histoire, c'est sur la toile de fond. Hein, pour imaginer une opération de blanchiment qui soit un peu réaliste. Mon passé, toute mon activité, mon expérience dans les télécoms, ça m'a... disons que ça m'a inspiré, et il y a ces petits passages sur le distributeur automatique de billets qui m'a inspiré. C'est à peu près tout. Tout le reste, après, est une fiction, c'est des personnages.
C'est votre imagination.
Voilà, et j'ai beaucoup voulu insister sur le décalage entre deux types de banditisme, on va dire. Il y a un banditisme classique, qui est celui du père.
À l'ancienne, comme vous dites,
voilà.
Où elle sent possible, il n'est pas là pour tuer, il veut pas...
Il est surtout là pour faire des sous.
Voilà. En faisant le moins de morts possible.
C'est pas un tueur. Ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent. Bon, c'est un truand, mais ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent. Et il se trouve en face d'une bande de tueurs. Mais il tue.
De la génération, donc.
C'est des gens qui sont.
Veulent de l'argent, mais ils veulent tuer aussi.
Oui, enfin, ça n'a. Il n'y a plus aucune.
Morale.
Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de rationalité,
éthique,
surtout. Hein. Ils ne construisent rien, ils tuent s'il faut tuer, mais ils peuvent tuer pour. C'est pour 100 euros, ça n'a aucune importance.
Voilà, c'est pas pour une grosse somme.
Ils sont incapables d'une construction.
Donc il y a ce décalage entre les deux sortes de banditisme.
Et voilà, c'est ça que j'ai essayé de décrire, c'est la toile de fond de ce.
C'est une histoire très morale, hein. Enfin, moi, j'ai bien aimé parce que voilà, les personnages sont bien, bien campés et puis c'est moral, quoi. Voilà.
Je ne sais pas trop ce que vous entendez par c'est moral.
Mais parce que, je vais pas tout dévoiler. Il faut que les gens le lisent aussi.
Ah,
mais bon, enfin voilà, je trouve que. Moi, ça m'a pas choqué. Enfin, genre, il y a des livres qui m'ont dérouté à la fin parce que bon, je trouvais que la fin, je m'attendais pas à cette fin-là dans le sens où bon, la fin m'a dérangé. Là, pas du tout. Je trouve que c'est bien dans la continuité de tout le livre.
D'accord.
C'est dans ce sens-là, moral, voilà. Et bon, il est méchant, bon ben voilà, c'est bien.
En même temps, la fin, ce que vous me dites, mais, ça m'évoque, il y a un déplacement, c'est-à-dire que la fin, la façon dont le roman se termine, que je ne vais pas dévoiler.
Non.
est une question obéie à une question qui n'est pas décrite au début. C'est-à-dire que l'enjeu qui se passe, les décisions qui vont être prises à la fin du roman, sont des décisions, ça traduit une évolution de l'histoire, et ça n'est pas prévisible au début.
Non, c'est pas ce que je veux dire, que la fin est prévisible par rapport au début, mais je veux dire, voilà, c'est que, pour moi, voilà, il y a une bonne continuité, enfin, il n'y a pas de, j'ai pas été déçue par la fin, voilà, en fait, voilà.
Ah, d'accord.
Parce qu'il y a des fins qui des fois me déçoivent un peu, par exemple, surtout pour des romans policiers, c'est pas toujours linéaire, hein, justement. Et là, j'aime bien parce que voilà, j'ai pas été déçue par la fin. Donc j'ai beaucoup aimé votre roman, Maurice. Et donc la question suivante, c'est forcément quels sont vos projets? Est-ce qu'il va y avoir un deuxième roman? Est-ce qu'il y a un deuxième roman en cours? Est-ce que vous allez continuer à écrire pour le plus grand plaisir de tous?
Alors oui, je suis en train d'écrire un nouveau roman policier également, avec le même personnage de policier.
Donc Leïla Ilmi, la jeune capitaine
voilà,
de police
énergique,
turque.
Énergique. Avec, mais pas toujours, qui a ses faiblesses aussi.
Oui, mais qui a du caractère, voilà. Elle est assez
qui a du caractère, que j'essaye de décrire aussi prise dans une grosse machine. Enfin, je crois que la police...
C'est une grosse machine.
Un policier prend pas des initiatives comme ça. Je suppose qu'il doit en référer
à sa hiérarchie.
Et puis il y a des impératifs, il y a des priorités. Il y a quelque chose, un incident sur de sécurité publique qui éclate à un endroit. Ben il faut y affecter des ressources. Elle les aura plus. Donc il y a toute une logique générale de fonctionnement dans laquelle j'ai essayé de situer ce policier que je continue à faire dans le roman que je suis en train d'écrire, mais qui là est dans un contexte très très différent, qui n'a rien à voir avec l'informatique.
D'accord,
mais
vous
avec
sortez carrément avec la musique.
Oui, c'est un groupe.
Dans un milieu, donc dans le milieu artiste, quoi, finalement.
Absolument.
Et ça se passera à Toulouse ou pas?
Oui,
toujours.
Ça se passe à Toulouse. Ouais.
Donc elle n'a pas été mutée ailleurs, Leïla Ilmi, elle est toujours
non,
à Toulouse.
Elle est toujours là, oui.
Bon, on attend avec impatience donc la sortie de ce prochain roman policier. Et merci beaucoup Maurice Zitniki d'être venu nous parler donc Le piège du sang de serpe aux nouvelles éditions Loubatière, un très bon roman policier que je vous conseille chaleureusement. Merci Maurice.
Merci à vous.
On se retrouve la semaine prochaine avec une petite surprise, enfin une toute jeune invitée plus exactement. Ça sera ma plus jeune invitée de l'émission Page à Page depuis 4 ans que cette émission existe. Donc si vous avez envie d'écouter la plus jeune invitée de Page à Page, eh bien ça sera la semaine prochaine. En attendant, restez à l'écoute des programmes de Radio Occitanie et bonne semaine à tous. Adiciats. Boop boop be doop.